Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du théâtre, mais moi, mes cours d'improvisation quand j'étais au lycée, ils m'ont appris beaucoup de choses, que j'utilise encore aujourd'hui. Par exemple pour présenter ce podcast. J'étais un comédien franchement pas terrible, mais j'avais un prof super. Il paraît même qu'il écoute parfois ces épisodes. Il nous faisait faire un exercice pour s'échauffer qu'on appelait le jeu de la bouteille. Tout le monde se met en cercle et une personne se place au milieu, ferme les yeux et se laisse tomber en perdant l'équilibre. Elle doit s'en remettre au groupe pour se laisser guider dans le cercle, lâcher prise et faire confiance. En fait, faire confiance aux autres, ça n'a rien d'évident. Et dans toute cette histoire de transition dont on parle toutes les semaines dans ce podcast, j'ai souvent l'impression que ça se construit plus sur de la méfiance que de la confiance, plus sur de l'opposition que de la coopération. C'est en tout cas souvent comme ça qu'on raconte, y compris nous ou dans les médias, la lourde tâche que nous avons devant nous. Les agriculteurs contre les écologistes, les habitants des villes contre ceux de la campagne, les automobilistes contre les cyclistes, les mangeurs de viande contre les végétariens, et plus encore. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Le réchauffement climatique, il est déjà là et ses conséquences rendent déjà la vie difficile pour des milliards d'habitants de cette planète. Et les politiques climatiques sont rarement des parties de plaisir. Très peu de gens sont aujourd'hui d'accord si on leur demande pour changer complètement leur manière de se déplacer, de se chauffer, de travailler ou de manger quand on a déjà pris un certain nombre d'habitudes. Parfois, certaines réformes apparaissent même dirigées contre une partie de la population. On a vu ces débats-là au moment du mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, par exemple contre l'augmentation de la taxe carbone. Est-ce que la transition climatique, c'est forcément fait de sang, de sueur et de larmes? Pourquoi la sobriété, elle paraît aujourd'hui pour une partie de la population comme un horizon plutôt triste et pas vraiment joyeux? Comment rendre la transition heureuse? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans ce nouvel épisode de Chaleur Humaine. Éloi Laurent est économiste, il est enseignant-chercheur à l'OFCE, à Sciences Po, à Stanford, aux États-Unis et aussi à l'École des Ponts. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la santé, le bien-être et la transition écologique. Parmi les derniers, un manuel des transitions justes paru en 2023 chez La Découverte et un petit nouveau, Coopérer et se faire confiance, aux éditions Rue de l'Échiquier. Bonjour Éloi Laurent.
Bonjour.
Alors moi, toutes les semaines, je reçois des invités dans le studio qui disent qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire, que cette histoire de transition, c'est très difficile, que plus on attend pour agir, plus cette transition, elle va être douloureuse. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous dites, si on réduit la transition au sang, à la sueur et aux larmes, on ne regarde pas dans la bonne direction. Pourquoi?
Alors, une transition, au fond, c'est quoi? Une transition, c'est trois choses simples. La première chose, c'est de décrire le monde tel qu'il est et de dire qu'on veut en changer. Le monde tel qu'il est ne nous satisfait pas. La deuxième chose, c'est de dire quel monde on voudrait. Et ça, c'est l'étape décisive. L'horizon vers lequel on veut aller. Et la troisième chose, c'est de passer du monde que l'on ne veut plus vers le monde que l'on voudrait. Si on se contente de dire, de décrire le monde tel qu'il est et d'expliquer que le monde ne va pas et que le monde est un monde dans lequel, en fait, la transition n'a pas commencé, c'est vrai, c'est indéniable. Si vous regardez les trois grands indicateurs de la non-transition actuelle, qui sont les émissions de gaz à effet de serre, elles n'ont jamais été aussi importantes qu'en 2023. Les extractions de ressources naturelles, elles n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. La destruction de la biodiversité, elle n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Donc, au milieu de ce qui a été décrit comme la décennie critique, on est à peu près au milieu en 2024, on se rend compte que, grosso modo, on est allé dans la mauvaise direction et qu'on est le plus loin possible dans cette mauvaise direction. Ça, c'est un fait. La question maintenant, c'est quels sont les horizons désirables qui permettront de sortir de ce monde indésirable? Et ça, c'est un exercice qui, en un sens, n'a pas commencé non plus. Et donc, il est absolument indispensable d'expliquer vers quels horizons collectifs on veut aller. Et il y en a trois très simples. Le premier horizon collectif, c'est un monde dans lequel les inégalités sociales sont réduites. Et c'est l'articulation entre justice et transition. On ne peut pas faire de transition sans justice sociale et faire la transition va permettre de réduire les inégalités sociales. Pourquoi? Parce que les crises écologiques affectent le plus les plus vulnérables.
Pardon, mais j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce premier point parce que cette idée que la transition doit nécessairement être juste, elle n'est pas forcément si consensuelle que ça. Il y a aussi des gens qui disent, mais regardez, en fait, on va faire la transition parce que grâce à des logiques de marché, le prix des énergies renouvelables baisse. C'est grâce à ça qu'on a du solaire pas cher. Donc, on va mettre du solaire pas cher à la place d'avoir du charbon qui va devenir de plus en plus cher. On va mettre des mécanismes de taxe carbone et en fait, on va, avec des mécanismes de marché, répondre à cette question-là. Ça sera une société sans carbone, mais ça sera peut-être peut-être une société avec des inégalités. Pourquoi vous pensez que c'est consubstantiel, que c'est nécessaire que cette transition elle soit forcément juste?
En fait, tout simplement parce que cette vision technosolutionniste ou, disons, économiciste de la transition, c'est-à-dire le récit selon lequel le marché va permettre la transition, elle est tout simplement fausse empiriquement. C'est-à-dire qu'on voit en fait que ça va beaucoup trop lentement parce qu'il n'y a pas cette dimension de changement social. Au fond, une transition, c'est un changement social, c'est une dynamique sociale. C'est le fait de mettre en mouvement la société dans son ensemble en trouvant les leviers essentiels qui permettront, par la coopération, d'arriver à un nouveau modèle. Donc, premier point, la question de la justice et de la transition. Deuxième point, la question de la santé. Ça, c'est vraiment l'élément nouveau, vraiment depuis 4 ou 5 ans. Vous ne pouvez plus organiser une COP aujourd'hui, une conférence des parties sur les négociations climatiques, sans qu'il y ait vraiment une partie importante des négociations qui sont consacrées à la santé.
C'est-à-dire, le processus de transition améliore globalement la santé.
Il y a ce qu'on appelle un co-bénéfice. Et ça, c'est un premier levier, là, on est à la recherche des leviers pratiques pour réaliser cette transition et la rendre désirable. Un co-bénéfice, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que quand vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre, vous allez aussi réduire la pollution de l'air. Et si vous réduisez la pollution de l'air, vous allez améliorer la santé humaine. Quand vous allez changer la mobilité dans une ville comme Paris en mettant des vélos, vous allez fondamentalement augmenter l'espérance de vie des habitants. Quand vous allez faire en sorte de mieux vous adapter contre les vagues de chaleur et les canicules qui sont une menace existentielle immédiate pour la population française. Nous perdons désormais en France des milliers de personnes chaque été. On va en perdre des dizaines de milliers. Si vous adaptez la France aux canicules, vous allez sauver des vies. Si vous changez le modèle alimentaire, vous allez réduire les risques de cancer. Tout ça, ce sont des co-bénéfices. C'est-à-dire quoi? Le fait d'intéresser socialement les gens à la transition écologique.
Alors moi, j'utilise très souvent cet argument-là et on en a parlé dans ce studio avec le médecin Jean-David Zeitoun, qui est épidémiologiste, qui a travaillé sur ces questions-là. Mais ceci dit, je suis quand même obligé de constater que, pour autant, on peut être d'accord sur le principe qu'en fait, la transition va améliorer la santé. Mais cet argument, il a du mal quand même aujourd'hui à porter. On a l'impression que c'est des sujets qui sont assez séparés les uns des autres.
Peut-être qu'il a du mal à porter dans la population ou dans la population française parce que ces sujets sont pas visibles dans la littérature académique. Ça devient absolument un argument essentiel. Et pour tout dire, je pense que la santé est le meilleur argument, à vrai dire, pour la transition écologique. Peut-être encore meilleur que la question de la justice sociale. Pourquoi? Parce que la justice sociale, par définition, elle est différentielle. Il y a des riches et il y a des pauvres. La santé, c'est quelque chose d'universel et c'est quelque chose d'intergénérationnel. Quand vous pensez à la santé de vos enfants, quand vous pensez au monde dans 20 ans, avec les trajectoires sur lesquelles on est, vous ne pouvez pas vous empêcher de frémir. Et la santé est un argument puissant parce que c'est aussi un argument qui nous relie au reste du vivant non humain. Donc, justice d'un côté, santé de l'autre. Et ce que j'introduis dans ce nouveau livre, c'est l'argument de la coopération. Et je pense que c'est ce triptyque-là qui rend la transition désirable. Ce sera une société plus juste, ce sera une société dans laquelle la santé humaine sera préservée et ce sera une société dans laquelle les liens sociaux seront renoués. La transition est un moyen de refaire société, de renouer des liens sociaux et de réinventer la coopération humaine.
Mais aujourd'hui, ce qu'on voit plutôt dans les politiques climatiques, y compris dans les discours qu'il y a autour du climat et de la transition, c'est plutôt que, au fur et à mesure qu'il va falloir diminuer notre usage d'énergie fossile, et en fait, il va falloir renoncer à un certain nombre de choses, que tout ça va être plus difficile, que peut-être il y aura une bataille pour les ressources, et que donc là-dedans, il y a plus un risque de guerre, de conflit, et qu'en même temps, les effets du réchauffement climatique, ça va être la baisse des rendements agricoles, donc un risque de famine. Donc, quand on regarde cette description-là, qu'on la confronte à ce que vous venez de dire, on se dit comment ça peut se concilier, ces trajectoires-là, et ce que vous dites sur la santé, les inégalités, la coopération?
D'abord, premièrement, gardez toujours à l'esprit que la transition n'a pas commencé. On se focalise énormément sur le coût de la transition, comme si nous avions enclenché toutes les politiques écologiques et qu'elles produisaient des coûts sociaux. Mais ce n'est pas ça du tout, la réalité. Nous n'avons pas du tout enclenché la transition écologique, ou si peu. Et les coûts que nous payons, ce sont les coûts de la non-transition. Le modèle agricole français aujourd'hui s'effondre parce que depuis 30 ans, il n'a pas été réformé. Pas parce que en 2050, le pacte vert européen dit qu'on va réduire hypothétiquement les pesticides de 20%. Ensuite, je suis complètement d'accord avec vous. La transition heureuse, il y a un double piège. Premier piège, la transition, puisqu'on sait que ce terme est attaqué et que ce terme a été choisi, par exemple, par Rob Hopkins, le fondateur des villes en transition, comme un terme qui ne fait pas peur. Il dit, Rob Hopkins, j'ai choisi le terme de transition précisément parce que je voulais donner l'idée que ça se passerait sans l'arme, etc. Enfin, sans, disons, vision churchillienne de la transition. Donc, une vision idyllique et donc trompeuse, bien entendu, puisqu'on efface tous les sacrifices. Et heureuse, c'est encore pire, puisqu'on se souvient de la mondialisation heureuse, c'est-à-dire heureux, c'est le paravent qu'on met devant les inégalités sociales et le fait qu'il y a des gagnants et des perdants, on dit tout le monde est heureux. Sauf que, petit 1, moi je défends le terme de transition. Transition, en latin, ça veut dire passage. Et c'est exactement ce que nous avons en face de nous. Un passage qui est étroit, qui se referme un peu plus chaque jour. On s'écharpe en France sur le fait de savoir s'il ne faudrait pas abandonner transition pour des termes un peu plus vigoureux, comme bifurcation, transformation, révolution. Le problème, ce n'est pas de savoir si c'est une bifurcation ou une révolution. Le problème, c'est de quelle manière on qualifie cette transition. Et dans transition heureuse, au moins on fait l'effort d'essayer de dire qu'il y a une dimension sociale, ou même une dimension subjective, ou même une dimension personnelle. Parce que vous pouvez appeler ça révolution écologique et vous n'aurez rien dit de plus. Et ça n'ira pas plus vite. Par contre, si vous appelez ça révolution sociale écologique, là vous dites, c'est en articulant les questions sociales et les questions écologiques qu'on va effectivement faire la révolution, qu'on va effectivement faire la transition. Donc transition heureuse, moi, je prends ce terme.
Oui, mais ça veut dire quoi, heureuse? Tout le monde n'a pas forcément la même définition du bonheur, non?
D'abord, il est clair qu'une vie réussie, c'est une vie heureuse. Tous les humains sont d'accord là-dessus, mais ils ne sont pas d'accord sur la nature du bonheur. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du bonheur humain? Qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux? Le bien-être est déterminé par la santé. C'est le premier élément qui est mis en avant dans toutes les enquêtes d'opinion sur le bien-être humain, avant le revenu. Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous rend heureux? Les liens sociaux. Et là, il y a une enquête dont je parle dans le livre majeur, qui est l'enquête d'Harvard, longitudinale, sur 80 ans, où on suit une cohorte des générations de gens pour savoir, dans le long terme, quasiment un siècle, ce qui fait qu'ils sont en bonne santé, en termes d'espérance de vie, et qu'ils sont heureux, à la fois leur longévité et leur félicité. On commence l'enquête, dans les années 20, dans les années 30, avec des hypothèses complètement baroques et pour certaines franchement douteuses sur la taille du crâne, etc., qui correspondent aux obsessions de l'époque. On arrive aujourd'hui avec un enseignement éclatant. Ce qui fait que les gens ont une espérance de vie importante et qu'ils sont heureux, c'est la qualité de leurs relations sociales. C'est extraordinaire, je veux dire, éclairage sur ce qu'est l'existence humaine. Donc si on dit transition heureuse, c'est une transition dans laquelle les liens sociaux sont absolument centraux. C'est-à-dire qu'on met en place une politique des liens.
Moi, je comprends bien que, évidemment, tout le monde a envie d'être plus heureux et d'avoir des très bonnes relations avec son entourage et d'être construit par les liens qu'on a. Mais quel est le rapport entre le fait d'avoir des meilleurs liens sociaux et le fait de décarboner notre économie, d'avoir moins d'usage d'énergie fossile?
Prenons un exemple très simple, la mobilité. Qu'est-ce qui est problématique dans le bilan carbone de la France? Les émissions de transport. C'est le seul poste depuis 1990 qui augmente quand à peu près tous les autres baissent. C'est d'ailleurs vrai au niveau de l'Union européenne. On a un problème de mobilité lié à l'aménagement du territoire, lié à des choix qui ont été faits de métropolisation, de mobilité pendulaire. Rentrons pas dans les techniques de l'affaire ou dans les causes profondes, mais on sait, et on sait en particulier depuis les Gilets jaunes, que c'est un problème social. C'est un problème de justice sociale, l'aménagement du territoire en France. Il y a un vrai problème d'inégalité territoriale. Quelle est une des solutions à ça? Faire disparaître la voiture thermique à horizon immédiat, c'est compliqué. Le covoiturage. C'est quoi le covoiturage à part des liens sociaux? C'est quoi le covoiturage à part le fait de remplacer une voiture individuelle par le fait d'être ensemble dans une même voiture? Donc ça, c'est un exemple très simple. Le fait de passer d'un transport individuel, et on sait, vous le disiez, la décarbonation du secteur de la mobilité, c'est pas remplacer un pour un tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Ça, c'est le projet américain, c'est un projet complètement irrationnel. Ça va simplement conduire à des extractions absolument phénoménales partout, au saccage des fonds marins, au fait de transformer le sud global dans des zones de sacrifice. C'est absolument pas la solution. La solution, c'est d'en finir avec la voiture individuelle. Donc le transport collectif. Le transport collectif, il faut réinventer la question des liens sociaux.
Alors, je voudrais revenir sur un terme qui est très présent aussi dans ces discussions-là, c'est la notion de sobriété. Dans tous les scénarios de transition climatique, on dit il faut qu'on consomme moins d'énergie, et à la fin, finalement, on se rend compte qu'il faut qu'on consomme moins de tout. Mais du coup, c'est vrai que pour une partie de la population, cette notion de sobriété, on l'a vu au moment de l'hiver 2022, elle apparaît comme une injonction aussi à dire, en fait, il faut faire un peu moins de tout, il faut renoncer à énormément de choses. Et donc ça apparaît pas très transition heureuse, non?
Oui, alors c'est vrai, et en même temps, il faut vraiment rendre hommage à l'association Negawatt qui a mis la sobriété au devant de la scène mondiale, au début des années 2000. Et on la retrouve quasiment 25 ans plus tard, en majesté, dans le rapport du GIEC, le troisième rapport du GIEC, où on parle de politique de sobriété. Sauf que c'est pas le terme sobriety qui a un sens tout à fait différent en anglais, c'est le terme sufficiency. Et je pense que le terme sufficiency ne se traduit pas, on entend ce qui est suffisant en français, ça ne se traduit pas par sobriété, ça se traduit par satiété.
Alors là, il faut expliquer.
Alors, la sobriété, d'accord, c'est le fait que, grosso modo, nous aurions tous et toutes trop, et qu'il faudrait descendre vers ce qui est juste assez ou juste bien. Là, on a le sentiment qu'on va tous descendre d'un cran. Et c'est ce qui pose problème, évidemment, aux classes moyennes et aux classes modestes. C'est que de se dire que on est déjà dans des sociétés qui sont fortement sous contrainte sociale et qu'on va devoir rétrograder, évidemment, ça apparaît à la fois injuste et impossible. Sufficiency, satiété, c'est le fait d'avoir ce qu'il faut. Alors, il y a deux dimensions très importantes dans le terme de satiété. La première, c'est le niveau de bien-être humain compatible avec la viabilité de la biosphère. Il y a un niveau de consommation, de production qui est compatible avec la viabilité de la biosphère. Nous sommes collectivement au-dessus de ce niveau, en termes de carbone, en termes d'eau, en termes de destruction de la biodiversité, il faut arriver à ça. Ce niveau n'est pas une ligne au sens où ce serait l'égalitarisme forcené. C'est plus un corridor, à vrai dire, autour duquel on peut imaginer des fluctuations. Premier niveau de satiété. Deuxième niveau, il y a des gens qui ont trop, il y a des gens qui n'ont pas assez. Et la question, c'est de faire en sorte de redescendre ceux qui ont trop et de faire monter ceux qui n'ont pas assez. Les travaux de mon collègue Lucas Chancel ont montré que, et vous en avez parlé dans ce podcast, qu'il y a déjà une majorité de Français qui se trouvent en fait au niveau des accords de Paris en termes d'émissions de CO2. Donc la transition, c'est pas faire redescendre tout le monde. C'est d'abord s'intéresser, s'occuper des modes de vie les plus luxueux et les plus insoutenables. Et ensuite aussi s'intéresser à tous ceux qui n'ont pas le niveau décent. Et donc, il y a toute une littérature sur la question de la décence et la question de la satiété comme niveau de vie universel décent, compatible avec la biosphère et supposant, effectivement, une espèce de rapprochement des niveaux de vie autour d'un corridor. Et là, tout d'un coup, l'idée de satiété, ben, on se dit, ah oui, donc, satiété, ça suppose une interrogation sur c'est quoi le bien-être essentiel. On en revient à la question de la santé et de la coopération. Les deux dimensions les plus importantes dans des études qui sont déjà anciennes. Qu'est-ce qui fait que vraiment la vie a un sens? La santé, les liens sociaux. Avec ça, une fois de plus, vous avez une vie qui a du sens. Et ensuite, les politiques de satiété nécessaires pour faire à la fois redescendre ceux qui ont trop, mais aussi monter ceux qui n'ont pas assez.
Enfin, cette vision de la satiété, on pourrait dire, évidemment, il y a beaucoup d'études dans lesquelles les gens répondent que ce qu'ils veulent, c'est du bien-être, des liens sociaux, être en bonne santé, avoir des amis, etc. Mais au quotidien, quand on demande aux gens, bah, en fait, ils n'ont pas forcément tous la même définition de ce à quoi ils aspirent. Il y a des gens qui adorent faire, je pense, au moment, il y a le salon du barbecue, il y a des gens qui adorent faire des compétitions de moto. Comment on fait aussi pour décider que tel ou tel type de consommation ou de mode de vie ne serait pas compatible avec ce qu'on définit comme étant la satiété ou le cadre des limites planétaires?
Prenons la question des conventions citoyennes. En France, on a beaucoup parlé de la Convention citoyenne pour le climat. Il y en a eu d'autres en Europe et dans le monde depuis quelques années. Il y a une très bonne synthèse qui est sortie il n'y a pas longtemps dans la littérature sur la comparaison des mesures prônées par ces conventions citoyennes et des mesures prônées par les gouvernements dans les plans climat nationaux. Et on a un écart absolument stupéfiant entre la place prise par les mesures, donc dites de sobriété, que moi j'appelle de satiété, dans les conventions citoyennes et dans les plans nationaux. Autrement dit, pour être clair, dans les plans nationaux, par exemple le plan national climat français, les mesures de satiété, c'est à peu près 9% des mesures. Dans les mesures prônées par la convention citoyenne, c'est 46% des mesures. Et c'est observable dans un nombre très important de pays. Quand les gens ont la possibilité de discuter et de coopérer, et on en revient à la notion de coopération, ils se mettent d'accord sur des mesures de satiété. En fait. Et donc, ce que vous décrivez, ce sont des gens pris isolément qui vous parleront de leur pratique. Mais quid quand ils commencent à discuter? Et on en revient à la question de la transition comme dynamique sociale. Ce n'est pas une statique comparative entre un point A et un point B où les gens ont des idées isolées dans un point A et arrivent à des idées convergentes dans un point B. C'est une trajectoire de convergence. Et pour ça, il faut la construire par des processus de négociation. Et la coopération, c'est ça précisément. Quand vous commencez à monter des communautés énergétiques en France, vous commencez à discuter. Et quand vous commencez à discuter, vous commencez à précisément mettre sur la table ce qui est essentiel pour vous et ce qui ne l'est pas. Et les gens changent de point de vue. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, les gens disent aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, est figé. La question, c'est de les faire discuter entre eux. Et quand ils discutent entre eux, ils arrivent à des mesures de satiété.
Enfin, sauf que ce n'est pas qu'une question de pratiques individuelles, parce que si on regarde la communauté des automobilistes ou des gens qui aiment consommer beaucoup de viande, par exemple, il y a quand même là-dedans des pratiques collectives, il y a des comportements de consommation qui en fait sont en augmentation et dans lesquels il y a aussi une forme de reconnaissance sociale. Il y a des gens qui sont fiers de manger de la viande et de pouvoir le partager avec leurs amis, pour qui, du coup, tous ces discours-là apparaissent d'abord comme un discours de très forte contrainte, qui dit, vous allez nous interdire de manger de la viande, vous allez m'interdire de prendre ma voiture, et donc, qui fait passer aussi celles et ceux qui avancent et réfléchissent sur les questions de transition, comme, en fait, des liberticides plutôt que des gens qui vont vers le bien-être.
La transition, c'est pas un ensemble épars de conversion. C'est un mouvement social. Ça suppose des mesures structurelles. Donc, la norme sociale, ça en fait partie. Et moi, je suis frappé de voir à quel point cet outil-là n'est pas utilisé dans le débat public français.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
La norme sociale, ça veut dire la question culturelle. La question de dire, au fond, le récit qui accompagne la vie des gens. Sartre disait, l'être humain est quelqu'un qui se nourrit d'histoire. En fait, il ne vit pas sa vie. Il raconte la vie qu'il mène. Et donc, quelle vie est-ce que nous nous racontons ? Et comment est-ce qu'on peut, non pas manipuler les gens, mais leur donner à voir d'autres récits ? Donc, d'un côté, il y a la question de la norme sociale et la question du caractère structurel des instruments qu'il faut mobiliser. Et de l'autre côté, j'y reviens, la question de la dynamique sociale. Comment est-ce qu'on construit une dynamique sociale ? Par le fait de partager les expériences et de faire en sorte d'avoir des lieux dans lesquels on peut coopérer. Ce qui fait défaut, c'est cette idée de la coopération, y compris de la coopération imaginaire, mais d'un espace libre dans lequel on échange des pratiques. Et ce qui évite précisément la question de l'affrontement, et de l'affrontement entre les modes de vie. Parce que, fondamentalement, la survie de l'humanité, tout le monde a à y gagner. Donc cette idée sur laquelle il y a des gagnants et des perdants, elle est complètement absurde, à horizon très rapide. Enfin, je veux dire, en France, pour revenir sur la question de la satiété, nous sommes déjà dans l'ère de la satiété. C'est juste que les pouvoirs publics ne l'ont pas verbalisé. Si vous prenez les grandes questions qui sont les sols, qu'est-ce que d'autre est la loi ZAN, le zéro artificialisation nette, que la première loi de sobriété foncière de l'histoire de France ? Donc on est déjà dans la question de la satiété sur la question des sols. L'eau, vous prenez les Pyrénées-Orientales aujourd'hui, vous prenez les mesures qui doivent être mises en œuvre aujourd'hui à horizon de quelques semaines, on est déjà dans la question de la gestion, la question de l'alimentation, la question de l'énergie.
Ces exemples que vous prenez, qui sont tout à fait justes, c'est aussi des exemples qui créent des frictions. Le zéro artificialisation net, il est perçu par un certain nombre d'élus locaux comme un truc qui empêche le développement, le fait d'avoir de nouveaux habitants ou de nouvelles activités économiques.
Pourquoi ?
La question de l'eau, dans les Pyrénées-Orientales, elle n'est pas vécue comme « Ah, c'est super, on a la satiété ». Elle est vécue comme « Ah zut, j'ai moins accès à l'eau pour irriguer mes champs, j'ai pas accès à l'eau pour mon camping, pour la piscine de mon camping, etc. » Et donc, du coup, tout ça, ça apparaît plutôt comme des contraintes que comme la transition heureuse.
Pourquoi ? Parce qu'aucune de ces politiques ne se déploie dans un langage clair des pouvoirs publics sur cette question des politiques de satiété. Prenons le ZAN. Le ZAN nous dit quoi ? Zéro artificialisation nette. L'adjectif clé ici, c'est net. C'est pas juste. Ça devrait s'appeler zéro artificialisation juste. Parce que dans le net, il y a le flou. Ce qui est décrit comme net est en fait des politiques de compensation par rapport à de la consommation foncière. Et tout la problématique, tout le flou du ZAN, il est précisément dans le net. C'est le même flou qu'il y a dans les stratégies zéro émission nette au niveau mondial. C'est-à-dire, on ne va pas réduire de 100% nos émissions de CO2, on va compenser. Compenser par le fait de planter des forêts, par le fait de faire en sorte d'augmenter les puits de carbone naturels ou artificiels. Autrement dit, ces questions-là, de justice, de coopération, ne sont pas du tout explicités dans des politiques qui, pour autant, se déploient.
Enfin, quand on parle de transition, on parle quand même de remplacer des pratiques qui émettent des gaz à effet de serre par des pratiques qui n'en émettent pas. Ça, c'est la logique, par exemple, qu'a défendu dans ce podcast le secrétaire général à la planification écologique, Antoine Pélion, il y a quelques mois, qui dit, on va décarboner l'économie, et donc on va essayer de garder une vie assez proche de celle qu'on a maintenant, mais juste en version décarbonée. Vous dites, en fait, il ne faut pas réfléchir comme ça.
C'est une illusion complète et les pouvoirs publics français sont responsables d'une dissonance cognitive énorme. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple du coût de la non-transition que le modèle agricole. C'est-à-dire qu'on perd sur tous les tableaux. Les sols sont épuisés, la biodiversité est détruite, les écosystèmes sont détruits, il y a des problèmes sanitaires absolument majeurs, le revenu n'est pas assuré, les agriculteurs et les agricultrices se noient dans des océans de dettes. Il n'y a pas un pan qu'il soit financier, social ou écologique, sur lequel ce système fonctionne. Et la solution, c'est on retire toutes les restrictions environnementales. Parce qu'on veut jouer un jeu politique à courte vue avec les populistes anti-écologiques qui se développent en prévision des élections européennes. C'est vraiment la solution de court terme, sans aucune espèce de vision. Et moi, j'ai été très frappé de voir dans le plan, enfin, le plan, c'est 40 pages, hein, c'est une espèce de PowerPoint, hein, mais le plan Nation Verte, voir, si vous voulez, une espèce de slide, de diapo qui apparaît à la fin, sur tous acteurs de la transition, on a des espèces de blocs de couleurs, il y a marqué moins sous chaque bloc, donc c'est vraiment un horizon exaltant, on va faire moins de tout, il n'y a aucune définition de ce que sont les acteurs de la transition, aucune définition des dynamiques sociales qui peuvent exister entre eux et entre elles, et donc on voit bien, c'est presque la transition version Minecraft, c'est-à-dire il y a des blocs, on les déplace, et finalement, au fond, rien ne changera. Qu'est-ce qui est la grande constante de tout ça? Bah, c'est la croissance économique, c'est le modèle fondé sur la croissance économique, et c'est cette absence de réflexion, une fois de plus, sur la question de la satiété. Mais si vous mettez ça, la satiété, ça pose immédiatement la question de qu'est-ce que c'est que le bien-être essentiel que l'on vise, et vous trouverez la question de la santé et des liens sociaux, comment faire en sorte d'y arriver en termes de dynamique sociale, et vous trouverez la question de la coopération. Voilà. Et c'est vraiment là-dessus que je pense qu'il faut qu'on arrive à progresser.
Je voudrais revenir sur un point qu'on a un peu abordé, qui est la question du rapport entre l'État et les individus. Parce que là, quand, dans cette critique du secrétariat général à la planification écologique, on avait eu cette discussion ici même avec Antoine Pellion qui s'occupe de ce secrétariat à Matignon, il y a un peu, dans leur vision, c'est vrai, l'idée que par la réglementation, on va changer les choses, qu'on va mettre des normes et puis que ça va finir par suivre. Mais d'un autre côté, vous dites, il ne faut pas non plus tout faire porter sur des individus. C'est-à-dire que ça ne peut pas venir d'en haut, ça ne peut pas venir d'en bas, mais du coup, ça vient d'où ?
Partons du bas. Les individus ne voudraient pas la transition parce qu'ils seraient rivés à leurs horizons de court terme et à une contradiction insoluble entre la question sociale et la question écologique. C'est absolument pas ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion. Dans les enquêtes d'opinion, le changement climatique est installé comme une préoccupation centrale et résiste à peu près à tout, c'est-à-dire la crise du pouvoir d'achat, les menaces géopolitiques, etc. Si vous prenez les derniers baromètres sur quels sont les risques les plus importants qui sont perçus par les Français, le changement climatique en fait partie. Si vous prenez les enquêtes fractures françaises, les trois priorités essentielles, c'est le pouvoir d'achat, oui, mais la santé et la question écologique. Donc la question, c'est d'articuler tout ça. Et c'est pas du tout la société civile est arc-boutée sur ses intérêts privés de court terme et l'État essaierait désespérément de lui faire faire la transition, c'est le contraire qui est vrai. La société civile veut la transition et c'est l'État qui la défait en permanence dans une espèce de travail de Pénélope où d'un côté on dit « bon maintenant on va engager tout ça à secrétariat de planification écologique », 6 mois après on dit « bon maintenant vous avez le droit absolument de détruire toutes les haies, de faire autant de pesticides que vous voulez parce que fondamentalement sinon vous en sortirez pas ». D'où les tensions qui montent, d'où les soulèvements de la terre. Le soulèvement de la terre, c'est le soulèvement contre l'inaction de l'État. Parce que les gens réalisent tout simplement que le monde est en train de changer sous leurs yeux et qu'ils ne voient pas les pouvoirs publics faire ça. Donc, l'idée sur laquelle les citoyens et les citoyens n'en veulent pas et il faut leur faire faire la transition, c'est exactement le contraire qui est vrai. Il faut faire faire la transition à l'État, qui est sous l'influence des lobbies économiques. Ensuite, le milieu, c'est quoi? C'est l'échelon territorial. On a en France une chance qui est que nous sommes un pays passionné par les territoires. Nous avons plus de territoires qu'à peu près aucun autre pays au monde par habitant. On a des dizaines de milliers de territoires, c'est-à-dire d'unités plus ou moins autonomes, mais aussi interdépendantes, de juridictions sur des espaces dans lesquels on peut agir. Donc ça, c'est un levier absolument formidable. Et il y a évidemment des milliers d'initiatives aujourd'hui sur toutes les questions essentielles qui sont déjà basculées dans l'ère de la satiété, que sont l'eau, l'énergie, l'alimentation, qu'on fait la sécurité sociale de l'alimentation. La sécurité sociale de l'alimentation, elle est portée au niveau territorial. Extraordinaire renversement par rapport à ce qu'a été la sécurité sociale de 1945. Sécurité sociale de 1945, c'est le projet centralisateur et étatiste par excellence. Aujourd'hui, la sécurité sociale de l'alimentation qui vise à réformer l'agriculture par la question de l'alimentation, elle est portée au niveau territorial, avec très peu d'aide de l'État central. C'est vrai sur les communautés énergétiques, qui se développent absolument partout. C'est vrai sur la question de l'eau, sur le fait de savoir si vous allez remettre l'eau en régie, par exemple, pour remettre la main sur la question de l'eau, et la question des réseaux, et la question des sols, évidemment aussi. Déjà, petit 1, les citoyennes et les citoyens, en fait, veulent de la transition et ils voudraient que l'État aille beaucoup plus vite que ça et soit clair, enfin, et ne soit pas dans cette dissonance cognitive permanente. Les territoires qui agissent déjà, et ensuite vous avez l'État français, en lien avec le niveau européen, et l'Union européenne, en fait, maintenant encadre beaucoup l'action de l'État français. Et tout ce que l'État français ne fait pas, il faudrait qu'il en réponde devant les instances européennes. Et donc, je crois beaucoup à l'encastrement de l'inaction étatique aujourd'hui entre l'impatience de la société civile, la réalité des initiatives territoriales et le cadre européen.
Si justement on ne veut pas avoir un État Pénélope qui défait la nuit ce qui est proposé le jour, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est-à-dire, du point de vue de l'État, de quelle manière, en fait, on pourrait prendre les choses pour mener de front une politique publique climatique et cette transition heureuse que vous appelez de vos voeux?
Je suis personnellement persuadé du fait que nous sommes face à une contrainte pour ce qui est de cette transition sociale écologique qu'on n'a pas bien estimée, qui est la contrainte numérique. Nous sommes dans des sociétés dans lesquelles, en apparence, on a une hyper-collaboration. C'est-à-dire qu'en apparence, on devrait avoir tous les outils possibles pour précisément coopérer davantage. Et on réalise en fait que nous sommes dans des sociétés qui sont atomisées par le numérique. Et une contrainte qu'on a et qu'on a mal estimée, c'est la contrainte numérique pour faire la transition sociale écologique. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut arriver absolument à faire, c'est regagner du temps de coopération. Nous sommes dans des sociétés dans lesquelles il suffit de parler autour de soi. Les gens n'ont plus le temps pour rien, et n'ont notamment plus le temps pour coopérer. Et le grand paradoxe de l'époque, c'est qu'on est dans des sociétés hyper collaboratives dans lesquelles la coopération est en crise profonde. Et donc, une politique, moi, que j'appelle la politique des liens, absolument fondamentale en vue de la transition, c'est faire en sorte de restaurer du temps de coopération, de faire en sorte qu'on se dégage à la fois de l'emprise économique, mais aussi de l'emprise numérique.
C'est marrant parce que je regardais la semaine dernière un discours de François Mitterrand en 1981. Il n'est pas encore président de la République et il dit « Mais après tout, la bataille que nous menons, c'est la bataille du temps libre, c'est de la bataille du temps libéré, sous-entendu libéré du temps du travail, de l'entreprise, du patron qui envoie les mineurs à la mine au 19e siècle, etc. » Il y a un peu cette idée-là qu'il faut retrouver du temps et on a souvent eu cette discussion-là ici. C'est d'ailleurs l'argument que faisait François Ruffin quand on l'a reçu dans Chaleur humaine en disant « Voilà, le cœur du problème, c'est ça. » Simplement. Ce qui est plus difficile, c'est de dire, mais comment on fait? Parce qu'en fait, on peut pas, aujourd'hui, dans nos pratiques, le temps, il est morcelé, y compris dans ma vie à moi, entre le temps consacré à ma famille, le temps consacré à mon travail, et effectivement, le temps consacré à avoir la dernière notification sur mon téléphone, essayer de lire un demi-bouquin en étant interrompu par un message sur WhatsApp, etc. Une fois qu'on a dit qu'il faut regagner du temps, quels sont les leviers qui nous permettent de le faire? Parce qu'on ne peut pas, par la loi, dire aux gens, bon, bah, à partir de demain, vous avez plus de temps, mais par contre, vous n'avez pas le droit de regarder votre téléphone ou Internet, c'est du temps pour coopérer.
Dans mon propre temps de désœuvrement, je ne regardais pas les discours de François Mitterrand, mais je réécoutais France Gall, Des branches, qui est une chanson absolument formidable, dans laquelle elle dit « Restez maître du temps et des ordinateurs ». On doit être, je ne sais pas quoi, en 1982 ou quelque chose comme ça. C'était il y a 40 ans. Et vous avez Michel Berger, France Gall, qui commence à comprendre qu'en fait, rester maître du temps et des ordinateurs va devenir un enjeu absolument central. Aujourd'hui, il est parfaitement clair que les ordinateurs ont pris le contrôle de notre temps et de notre vie. Et ça s'accentue encore avec cette folie absolue qu'est l'intelligence artificielle non régulée. Donc, on a là un enjeu essentiel et on a un moyen de reconnecter la question de la transition écologique à la vie des gens. C'est-à-dire de leur montrer que autant la transition écologique peut être un facteur de coopération, autant leur coopération peut permettre précisément cette transition. Mais il faut effectivement se dégager de ça. On a une crise aujourd'hui qu'on appelle aux États-Unis l'épidémie de solitude. Moi, j'appelle dans le livre la pandémie de solitude, parce qu'à ce stade, elle ne touche plus que les États-Unis. Il y a eu un rapport qui a été publié l'année dernière par le responsable de la santé publique aux États-Unis qui dit « L'épidémie de solitude aux États-Unis, ça veut dire en fait un problème de santé publique. Être seul aux États-Unis est aussi destructeur pour la santé que de fumer 20 cigarettes par jour. » C'est-à-dire que quand vous regardez l'effet sur l'espérance de vie, de ce qu'est l'isolement social, de ce qu'est la solitude, vous avez des effets absolument dévastateurs sur la santé humaine. Ce que nous avons de plus précieux, ce sont nos liens sociaux. Que ces liens sociaux, ils nous donnent la vie, ils nous maintiennent en vie et nous permettront d'affronter les chocs écologiques. Et nous sommes dans des sociétés dans lesquelles cette hyper-segmentation que vous avez décrite sur votre propre vie. Alors d'un côté, j'ai ça, de l'autre, j'ai ça, etc. Et évidemment, tout ça centralisé dans votre téléphone. et bien sûr donner à des entreprises de la tech qui en profitent pour savoir tout ce que vous aimez ou vous n'aimez pas. Ça, cette hyper-segmentation, cette idée selon laquelle on a des sociétés hyper-fragmentées, hyper-segmentées, que le numérique a ajouté à l'économique, je pense que c'est un poison, ou plutôt c'est un obstacle absolument considérable pour la transition.
D'accord, mais ça ne nous dit pas quel levier on peut utiliser pour faire en sorte... On avait cette discussion, par exemple, avec la députée écologiste Delphine Bateau. Elle disait, bah, pour moi, une mesure de transition qui va dans le bon sens et qui permet d'améliorer la vie des gens, c'est la réduction du temps de travail de manière immédiate parce qu'on va libérer du temps aux gens. Sauf qu'en fait, si on libère du temps aux gens, rien ne dit que ce temps-là ne sera pas utilisé pour faire ce que vous décrivez comme de la fragmentation du temps, un peu sur mon téléphone, un peu sur mon ordinateur, un peu pour ma famille, un peu pour des grandes entreprises de la tech qui vont prendre mes données et les revendre. Enfin, on n'a pas beaucoup d'outils de politique publique qui permettent de redonner du temps dans lequel on peut s'ennuyer et collaborer.
Qu'est-ce qui nous dit qu'il y a quand même une chance pour que les humains, libérés de l'emprise numérique, se remettent à coopérer? C'est l'histoire de l'humanité. Ce que j'essaye de raconter dans ce livre, qui en 100 pages pose la question peut-être la plus centrale de l'humanité, qui est pourquoi l'humanité est-elle prospère? La réponse que donnent les sciences de la biologie évolutive comme de la psychologie sociale, avec un immense consensus, c'est que la raison pour laquelle l'humanité prospère, c'est parce que c'est une espèce coopérative. C'est ça qui nous distingue à la fois du reste du vivant, notre capacité à coopérer, pas seulement à collaborer, et c'est aussi ce qui nous distingue des machines. Ce que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à reproduire, c'est la coopération humaine. C'est la part inimitable de notre intelligence. Donc, qu'est-ce qui nous laisse penser que les humains retourneront vers la coopération, c'est qu'ils le font depuis des millions d'années et que c'est ça qui explique leur prospérité.
Oui, mais est-ce que là, il n'y a pas une différence qui est, on a ce problème face à nous qu'on sait identifier, qui s'appelle à la fois le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, enfin voilà, tous ces problèmes dont nous avons parlé, et donc il faut coopérer pour pouvoir y faire face, et donc il faut se préparer collectivement. C'est un peu différent d'une situation dans laquelle on subit, par exemple, une guerre qui nous arrive dessus, et donc il faut coopérer pour survivre. Là, il faut coopérer pour se préparer, c'est pas un peu différent ?
C'est pas coopérer pour se préparer, il faut coopérer pour faire deux choses. En fait, la coopération, c'est une politique aussi bien d'atténuation que d'adaptation. C'est-à-dire, il faut coopérer pour changer de modèle économique et remplacer la question de la surproduction, de la surconsommation par l'essentiel, c'est-à-dire les liens sociaux et la santé. Je suis absolument persuadé de ça. Le modèle de la croissance économique est en train de s'effondrer sous nos yeux. Il y a un consensus extrêmement large aujourd'hui dans la communauté scientifique, dans les études environnementales, pour reconnaître que ce modèle de croissance économique est dépassé et qu'il est destructeur. Ce modèle-là est complètement dépassé. Par quoi le remplacer? C'est effectivement la grande question. Et c'est ça l'importance de la coopération. Donc, atténuation d'un côté. Comment est-ce qu'on va moins consommer? Comment est-ce qu'on va moins produire par la coopération? Mais attention, on est rentré dans l'ère des chocs écologiques. Le Covid, pour moi, c'est le début du 21e siècle. C'est le moment où on rentre dans l'ère des chocs écologiques. Et face à ça, il va falloir construire des boucliers. Parce que les chocs qui arrivent, et qu'on n'évitera pas, les canicules, les autres chocs pandémiques au-delà du Covid, les tempêtes, les tornades, tous les chocs climatiques, les chocs écologiques, ils vont nécessiter le fait qu'il va falloir se protéger. Et la manière de se protéger, c'est de coopérer. C'est-à-dire les liens sociaux vont être un bouclier.
Mais du coup, comment on fait? Est-ce qu'il y a des exemples, par exemple, que vous avez en tête en France? Par exemple, vous parliez tout à l'heure de certains territoires dans lesquels il y a des initiatives qui sont prises pour justement renforcer le lien social et un peu mettre à l'épreuve notre coopération collective.
Prenons la question des canicules. On a la canicule de 2003 qui tue en Europe 70 000 personnes, en France à peu près 15 000, 20 000 personnes. Entre parenthèses, la canicule de 2022 tue à nouveau 60 000, 70 000 personnes en Europe. Donc, on comprend que la canicule de 2003 était l'acte d'ouverture, le prologue de cette ère des canicules qui est désormais absolument dévastatrice. Il y a des choses évidentes et centralisées et des choses moins évidentes et locales qui peuvent être faites pour lutter contre ça. Tenir un registre à jour des personnes âgées isolées en France. Construire des réseaux d'entraide qui permettent de savoir si ces personnes s'hydratent, si elles ont besoin d'être aidés, etc., c'est absolument fondamental. Je lisais à Montpellier l'été dernier, Montpellier qui est une ville qui rentre dans des étés dans lesquels il n'est pas impossible d'avoir, place de la Comédie à Montpellier, 50 degrés mesurés au sol. Des aires de jeux d'enfants dans lesquels il fait 60 degrés. C'est-à-dire que les personnes les plus vulnérables sont dans des endroits qui sont exposés à des températures totalement insoutenables. En Occitanie, vous avez des villes qui ont mis en place des réseaux d'entraide où les jeunes de la ville s'organisent avec des vélos, des bouteilles d'eau, pour s'occuper de leurs aînés. C'est à la fois très simple et c'est profondément efficace. Le fait de savoir qui est vulnérable, donc une fois de plus de connecter la question de l'isolement social, qui est un phénomène très préoccupant en France, avec la question de la vulnérabilité face à des chocs comme ça, et de pouvoir créer des réseaux d'entraide intergénérationnels qui font que des jeunes qui vont moins souffrir peuvent venir en aide à des personnes âgées en France, c'est quelque chose de très simple, très low-tech, pas compliqué à mettre en œuvre, qui peut sauver concrètement des milliers et des milliers de vies.
Donc en fait, ce que vous dites, vous, au fond, c'est que il faudrait arriver à une forme de planification, mais d'un genre qu'on n'a jamais connu, qui soit une planification décentralisée, locale, qui parte des acteurs de manière démocratique pour dire voilà ce qu'on peut faire sur le territoire pour arriver à la fois à utiliser moins d'énergie, moins consommer et en même temps s'adapter aux conséquences du changement climatique.
Mais complètement. C'est-à-dire qu'il faut remplacer ce terme de planification écologique par le terme de coopération sociale écologique. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle c'est l'État français qui va décider une fois de plus dans un bureau de Matignon avec des tableaux Excel de ce que tout le monde va faire en appuyant sur un bouton et ensuite tout le monde va exécuter la manœuvre comme des robots, ça n'a aucun sens et ça ne donne aucun résultat. C'est la version française, très influencée par les ingénieurs, de ce que doit être une transition. Là, il faut de la sociologie. Il faut plus d'éclairage sur la transition comme changement social. Et on arrive à ce moment-là à la question de la coopération. Et c'est complètement différent. Mais vous avez entièrement raison. S'il fallait résumer cette conversation d'un mot, ce serait passer la transition qu'il nous faut. C'est passer de la planification à la coopération.
Qu'est-ce qui, malgré toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer, vous permet quand même de garder l'espoir qu'on peut aller dans la bonne direction, même si vous dites la transition n'a pas commencé? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir?
Plein de choses. D'abord ma vie personnelle où je vois et où je mesure chaque jour la puissance de la coopération. Tout simplement par le fait, dans le livre, je dis il y a trois niveaux de coopération, il y a trois sphères de la coopération. Il y a les liens intimes, les liens sociaux et les liens vitaux. Dans chacune de ces trois dimensions, on va pas faire une émission sur ma vie, je pourrais vous dire comment est-ce que ces liens m'ont rendu meilleur, plus intelligent, ou même tout simplement comment mon intelligence ne dépend que de ces liens en réalité. Donc d'abord, mon expérience quotidienne, ma coopération avec les membres de ma famille, mes enfants, ma femme, mes collègues. La recherche, ça ne se fait pas autrement que par la coopération, sinon vous avancez à peu près pas. Et la question des liens sociaux, c'est-à-dire ce que change en vous la fréquentation d'une forêt, la découverte d'un animal, d'une plante, l'émotion immense que ça suscite en vous, et ce que ça va changer et mettre en mouvement dans votre vie. Donc moi, j'appelle ça la coopération pour savoir et par amour. Et je dis, l'amour, c'est la matrice de toutes les coopérations. Les économistes se sont trompés. On coopère pas par intérêt. On coopère par amour. Et c'est l'enseignement fondamental, évidemment, de Martin Luther King, mais de bien d'autres avant lui, qui ont changé le monde. Qui ont changé le monde. Et pas un monde simple à changer, comme l'Amérique raciste des années 50.
Alors c'est vrai, on va pas faire encore tout un épisode sur votre vie, mais avant de vous laisser repartir, j'aimerais quand même savoir comment vous vous posez ces questions-là à un niveau plus personnel. Vous avez parlé de votre rapport aux liens sociaux, au bien-être dans votre vie. Est-ce que vous, il y a des actions individuelles qui, ces dernières années, vous avez menées dans ce sens-là et qui vous ont changé, qui vous ont marqué? Vous vous êtes dit, bah tiens, ça c'est des choses qui vont dans un sens de plus de coopération, même à mon propre niveau.
Oui, mais en fait, j'ai pris des grandes décisions, mais je les ai jamais prises seules. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les actions individuelles, une fois de plus, c'est des actions encastrées dans des liens sociaux. Je les ai prises, ces décisions, parce que j'ai été influencé par d'autres, de façon absolument claire. Je les ai pas prises de mon propre chef.
Par exemple,
cesser d'assister à des conférences internationales. J'ai renoncé au cours des 15 dernières années, depuis que j'ai une carrière internationale, à peut-être 50 invitations dans 50 pays du monde, parce que j'ai considéré que c'était pas raisonnable d'aller pour deux jours pour faire une conférence en Chine, que c'était pas raisonnable d'aller pour 48 heures à Madagascar, que c'était pas raisonnable de faire une semaine de tournée en Amérique du Sud. Et donc, j'ai renoncé quasiment à tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je décline 98% des sollicitations qui me sont faites et je ne vais pas, y compris en Europe, à partir du moment où ça suppose de prendre l'avion. Mais encastrement dans les liens intimes. Si vous dites, par exemple, je ne veux pas prendre l'avion, ça suppose à ce moment-là que vous faites un trajet long en train. Mais moi, je ne veux pas non plus être loin de ma famille. Donc, vous vous retrouvez en fait dans des situations dans lesquelles l'attachement à l'essentiel vous fait prendre les bonnes décisions, qui est en fait de voyager moins, et je suis persuadé que c'est essentiel. Donc, concrètement, j'ai réduit mon bilan carbone en termes de voyage de, je ne sais pas, peut-être 97%, et aujourd'hui, je suis à un bilan carbone qui est en dessous des accords de Paris. Je n'ai pas de voiture, je n'en conduis pas, je ne prends pas le taxi, je ne prends donc quasiment pas l'avion, et surtout pas, enfin quasiment jamais pour des motifs professionnels, et je ne mange plus de viande.
Est-ce que vous, il y a un livre, un film, une œuvre de fiction qui vous a particulièrement influencé sur ces questions-là et que vous aimeriez partager ?
Oui, mais ce n'est pas très original. Demain, de Cyril Dion, j'ai trouvé que c'était formidable. En fait, j'ai trouvé que c'était formidable parce que c'est une espèce de récit extrêmement simple et structuré de la manière dont on peut articuler tous les niveaux d'action, du niveau d'action individuel au niveau d'action le plus collectif, pour faire un projet cohérent et faire en sorte de relier ces sujets-là. Voilà. J'ai trouvé que c'était un tour de force intellectuel d'arriver à faire ça. Et je me suis dit, en fait, ça doit être possible d'arriver à faire des choses courtes qui permettent de faire passer des idées fortes.
Alors, peut-être une dernière question qui me vient. Si quelqu'un vous demandait conseil en disant « Voilà, j'ai lu votre livre, j'aimerais bien m'orienter plus vers la coopération. Aujourd'hui, je ne sais pas comment le faire. » Qu'est-ce que vous lui conseilleriez ?
Laissez le smartphone et prendre une heure de temps pour coopérer avec quelqu'un, dans le cadre familial, dans le cadre du voisinage, dans le cadre des collègues, dans le cadre de l'amitié, etc. Vraiment ça. C'est-à-dire arriver à comprendre qu'il va nous falloir renoncer à cette emprise numérique. Elle est séduisante. Elle est séduisante comme les sirènes sont séduisantes. Je pense qu'en fait, au début des années 2000, on s'est trompé de transition, concrètement. On réussit à merveille la transition numérique. C'est un modèle du genre. Tout y est. C'est drôle, c'est amusant, tout le monde y participe, on y va de tout cœur et c'est de plus en plus prenant dans nos vies. Et ça nous amène absolument vers la catastrophe. Et c'est plutôt, ça nous empêche de voir que précisément le monde est en train d'être détruit. Et je pense à ça de plus en plus comme un écran, comme un paravent que nous avons mis devant nos yeux pour ne pas voir cette réalité. Donc il va falloir absolument renoncer à ça. Ça me paraît indispensable et il va falloir le faire non pas sur le mode du sacrifice, mais sur le mode du choix.
Merci Éloi Laurent.
Merci beaucoup.
Ce que je retiens en premier de cette conversation avec Éloi Laurent, c'est évidemment d'abord cette notion de transition heureuse. Et finalement, je trouve que c'est assez novateur. On a déjà parlé dans ce podcast des bénéfices de la transition pour la santé, par exemple, avec le médecin Jean-David Zetoun. Mais il me semble que la réflexion d'Éloi Laurent, elle ajoute une brique, elle va un cran plus loin. Ce qu'il dit, c'est que la recherche du bonheur dans la transition écologique, c'est une condition de réussite. Que si toute cette histoire, eh bien, ça ne rend pas nos vies meilleures, en fait, on n'a aucune chance d'y arriver. C'est intéressant et c'est vrai que c'est pas la même chose qu'une vision plus technique de la transition qui dit qu'il faut prendre des énergies fossiles et les remplacer par des énergies renouvelables. Et c'est vrai, c'est pas parce qu'on développe les renouvelables ou le nucléaire ou les voitures électriques qu'on va d'abord être en meilleure santé et plus heureux avec nos proches. Et je trouve que cet élément de réflexion, il est très intéressant et pas souvent utilisé. J'en tire un deuxième point. Dans mes jours d'optimisme, oui, il y en a, même souvent, j'arrive à imaginer ce qu'est une société plus solidaire, où on est en meilleure santé, on vit sur une planète habitable et agréable dans le respect des limites planétaires. Ce qui est plus difficile pour moi à imaginer, c'est le chemin par lequel on passe. Et là-dessus, Éloi Laurent a raison de dire que cette transition-là n'a pas vraiment commencé. Comment mettre en œuvre une transition qui prend en compte à la fois le bonheur des individus et notre réussite collective face à la crise écologique ? C'est essentiel, c'est vrai, mais moi je dois dire que je ne comprends pas très bien comment ça marche. Il nous manque les mots et les histoires pour rendre la sobriété séduisante et les victoires de long terme plus sexy. Comment faire pour promouvoir la coopération plutôt que la concurrence, la mise en commun de nos idées et de nos cerveaux plutôt que la rivalité ? Certainement, il existe plein de manières d'y arriver et peut-être qu'il faut qu'on les partage plus. Donc si vous avez des expériences ou des témoignages de coopération qui rendent heureux et qui font baisser nos émissions de gaz à effet de serre, ben, n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Il y a un troisième élément qui me reste de cette conversation. C'est la critique très forte d'Éloi Laurent sur le numérique. Pour lui, nos téléphones et nos ordinateurs sont en train de nous détruire à petit feu. Ils nous donnent l'illusion d'avoir des liens sociaux, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Je ne suis pas certain d'être à l'aise avec cette vision des choses. Bien sûr, comme tout le monde, je constate que je passe trop de temps sur mon téléphone, ça me saoule, et ma vie est plus heureuse quand je m'en détache. avec ma compagne, on avait essayé de mettre en place des dimanches sans écran. On avait appelé ça des jouzec, journée zéro écran, pour essayer de se passer de nos téléphones pendant toute une journée. Et il faut dire que ça marchait plutôt bien. Pour autant, je jetterai pas le numérique avec l'eau du bain. Pour des millions de gens dans le monde, c'est aussi du vrai lien social, par exemple quand sa famille vit dans un autre pays. Et puis, c'est aussi difficile de réussir toute cette histoire de transition sans numérique. Un réseau électrique avec plus d'énergie renouvelable, ça demande plus de données, tout comme une meilleure gestion de nos réseaux d'eau. Je trouve que c'est un sujet pas facile qu'on n'a pas encore vraiment abordé dans Chaleur humaine. Et tout ça plaide pour un épisode dédié sur la question. En tout cas, je ne l'ai jamais abordé de cette manière-là. Et sur ce point aussi, je serais ravi d'avoir vos avis, vos critiques et vos manières d'approcher cette question, y compris dans vos vies, comme toujours, à la même adresse mail, chaleurhumaine@lemonde.fr. Et voilà, c'est fini. Merci, merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode de Chaleur humaine, un podcast de la rédaction du Monde consacré aux défis climatiques et aussi à la transition heureuse. Allez, produit et préparé par Cécile Cazenave, réalisé et mis en musique par Amandine Robillard. Vous le savez peut-être déjà, mais Chaleur humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire, pardon, je crois qu'on dit une infolettre, tous les mardis. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à des questions envoyées par les auditrices et les auditeurs du podcast. Et ensuite, de manière assez désordonnée, je les publie sur une page du Monde qu'on a bien voulu me confier et qui s'appelle Climat, vos questions. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a convaincu que la transition peut être heureuse ou si au contraire, il vous a fait hausser les sourcils avec dédain. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et quelques boreks, des feuilletés garnis au fromage de brebis et au raisin à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Si vous en préparez, vous pouvez aussi m'envoyer une boîte par colis au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application favorite. Vous pouvez le partager à vos amis, ça fera du lien social, ou ajouter des commentaires et des étoiles. Et en hommage à notre invité du jour, un peu de France Gall. Merci, merci infiniment pour votre écoute. Allez, on débranche et bravo, super bravo d'être resté jusque-là. À bientôt.